lorsque j'ai souhaité et construit le Osalis, je l'ai voulu absolument sans ingrédients se comportant comme des œstrogènes. Alors, dans le grand public, on parle de perturbateurs endocriniens. Ceux-là sont connus, reconnus ou présupposés. Mais en fait, moi, j'ai souhaité aller au-delà.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Saviez-vous qu'il n'existe quasiment pas de cosmétiques formulés pour celles et ceux qui sont atteints du cancer ? Aujourd'hui, je reçois Isabelle Guillaumard. Isabelle est une cancer survivor, une combattante. D'ailleurs, c'est le titre de son livre et il illustre parfaitement son histoire. Elle y raconte son récent combat contre la maladie, elle n'élude de rien et ça chamboule. De son expérience et face aux effets de la chimiothérapie sur la peau, Isabelle a fait naître un projet, Osalis, une marque de soins formulée pour les personnes atteintes de cancer. Car le bien-être est loin d'être futile dans ces circonstances, vous allez l'entendre. Je dédicace cet épisode à toutes les femmes et les hommes touchés de près, parfois dans leur chair, par cette maladie. Je pense tout particulièrement à Getty, qui vient de terminer les traitements lourds, et à Manuel, qui est entré dans ce tourbillon il y a quelques semaines. Tiens bon. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Isabelle.
Bonjour Chantal.
Alors, Isabelle, vous étiez déjà dans le secteur cosmétique, je crois.
Oui. Alors, en fait, je viens de l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé 20 ans pour les biotechnologies. Et à 40 ans, j'ai racheté des usines de parfums et de cosmétiques en perdition.
D'accord.
Et depuis 10 ans, je suis au service des plus grands et des plus grandes marques du luxe mondial avec un groupe industriel de 250 salariés qui va bien et que nous avons redressé.
D'accord. Et alors en 2013, on vous diagnostique un cancer du sein. Alors aujourd'hui, vous êtes sortie d'affaires, mais vous en avez tiré un récit très fort dans un livre qui s'appelle « Combattante ». C'était important pour vous d'en parler ?
Alors, aujourd'hui, je suis en rémission. La rémission, c'est l'absence de récidive. C'est cette période après la maladie. Arbitrairement, on la fixe à 5 ans et selon les cas, c'est 10 ans. Et moi, je suis plutôt dans la tranche 10 ans. Et 4 ans après le diagnostic de la maladie, j'ai eu besoin de faire le point, de faire un retour un peu en arrière parce que l'aventure Osalis était tellement vibrante et étourdissante. J'ai eu besoin de me poser et j'ai écrit Combattante.
Et alors, justement, durant cette épreuve, de par votre expérience quotidienne, peut-être aussi parce que vous connaissez le secteur hein, de la beauté, vous avez eu donc l'idée de créer Osalis, comme vous disiez. Alors, racontez-nous cette aventure.
Alors, ça n'est pas venu tout seul, en fait. C'est venu au fur et à mesure des mois de traitement. Les traitements sont agressifs. Hein, les traitements qui visent à vous sauver la vie sont très agressifs. Et ma salle de bain regorgeait de produits. J'achetais des tubes et des tubes. Ça partait à la poubelle. Je trouvais pas ce qu'il fallait. Je faisais des tests, en rachetais une autre. Et à la fin des traitements, j'ai eu envie de aussi donner du sens à cette épreuve. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que j'ai exprimé le besoin de faire des crèmes, pas pour les femmes qui se demandent dans combien elles auront de rides dans 10 ans, mais si elles auront la chance d'avoir des rides dans 10 ans.
Et alors, en fait, on pense souvent, quand on pense cancer, chimiothérapie, on imagine souvent la perte des cheveux. C'est la première chose à laquelle on pense. Mais il y a d'autres effets de ce genre de traitement. Et c'est ça que vous avez voulu un peu traiter, entre guillemets.
Alors, la perte des cheveux, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point on cherche à la cacher.
Ouais.
Ce visage de mort, les perruques sont remboursées.
Oui.
Donc, pour que l'on puisse marcher dans la rue sans faire peur. Ouais. Donc c'est une partie émergée de l'iceberg. Les autres effets secondaires sont bien plus graves et bien plus douloureux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, finalement, jusqu'à présent, on ne s'intéressait pas à eux. Le principal effet secondaire de la chimiothérapie, c'est la baisse des défenses immunitaires et des globules blancs qui peut vous conduire dramatiquement à la mort. Ça, c'est un effet secondaire grave et important. Et les médecins sont concentrés sur ces effets secondaires graves et importants. Par ailleurs, toutes les molécules vont affecter les muqueuses, la peau. C'est une bombe, la chimiothérapie. Donc, c'est une bombe nucléaire qui ne va pas cibler et qui va affecter l'ensemble des cellules du corps. Et donc, la peau et les muqueuses sont terriblement affectées. Les effets secondaires les plus douloureux que l'on ne voit pas, c'est par exemple les lésions de la bouche, que l'on appelle en cancérologie les mucites. Il faut imaginer, pour l'illustrer, souvent je parle de manger des clous rouillés pendant des mois. Je dis bien clous parce qu'il y a des pointes et ça fait mal, et rouillés parce qu'il y a le goût. Et cette absence de salive qui vous empêche finalement de respirer, de manger, et qui vous fait perdre le goût à tout, et la douleur qui est importante. Donc ça, c'est un exemple d'effet secondaire très fort, raison pour laquelle j'y ai répondu avec un dentifrice et un bain de bouche spécifique. Mais on peut parler aussi de la sécheresse de la peau. Alors, on n'est pas dans la sécheresse classique, on est dans une sécheresse de peau extrêmement avancée et qui conduit à dire « Docteur, j'ai mal à la peau ». La douleur de peau, c'est très étonnant. Associé, parce que les terminaisons nerveuses sont également affectées. Et donc, on a un cortège comme cela d'effets secondaires qui va de petits bobos à des choses qui prennent une ampleur par leur récurrence, leur importance et la durée aussi, qui finissent par prendre une ampleur qui altère réellement votre qualité de vie.
Vous parlez aussi dans votre livre des ongles, l'effet sur les ongles.
Oui, parce que l'ongle est un fanère, comme le cheveu. Et donc, on perd ses cheveux et on perd ses ongles. Ça fait très, très mal.
Oui, j'imagine.
Extrêmement mal. Ça, c'est un effet secondaire très, très difficile, qui est aujourd'hui encore très difficile à maîtriser. Et de la même façon, ça reste pour le corps médical par rapport à la gravité d'autres effets secondaires et à l'enjeu de la survie, ça reste anecdotique
pour le corps médical. Bien sûr. Sauf que pour une femme ou même pour un homme, perdre ses ongles, c'est pas si anodin que ça.
Et pour les hommes, je crois que c'est encore bien pire parce que aujourd'hui, le protocole de l'INCa mondialement appliqué, en fait, c'est la pose de vernis et de vernis foncé. Il faut imaginer qu'un homme qui est en traitement anticancéreux avec un vernis noir sur les ongles, c'est extrêmement difficile à vivre pour eux, psychologiquement. Et je ne parle même pas de la pose du vernis, qui est très compliquée. Et non pas tous une femme pour leur poser. Donc, on ne voit jamais d'ailleurs un homme avec du vernis. Il ne l'applique pas. Donc, c'est très difficile. Et nous, on a essayé d'y répondre avec un soin qui réponde à la fois au syndrome main-pied, mais également qui prenne en charge les ongles.
D'accord. Alors, il y a 60 000 nouveaux cas de cancer du sein en France par an, j'ai lu. 7 millions de femmes en cours de traitement dans le monde. Pourquoi aucune grande marque vendue en pharmacie ou en para n'a encore mis au point des produits spécifiques pour ce public, quoi, pensés pour ce public?
Mais je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous me dites 56 000 femmes par an. Il y a 30 millions de femmes en France. Vous me dites 7 millions de femmes en traitement et il y a 4 milliards de femmes. Donc,
c'est pas un marché.
Ça n'est pas un marché. Le cancer fait peur. Le cancer, c'est la mort, c'est pas beau. Le cancer, c'est la précarité, c'est une perte de revenus. Et finalement, l'innovation que nécessite de prendre, d'adresser ces effets secondaires, l'innovation est extrêmement onéreuse, elle est risquée. L'innovation, elle va pour les plus aisés, donc sur les marchés extrêmement sélectifs. Et pour le reste, eh bien, si je puis me permettre, c'est la même soupe pour tout le monde. Un bon chef de produit, un bon marketing ciblé et en avant.
Alors, vous, comment avez-vous procédé pour mettre au point les formules d'Osalis ?
Alors, c'est 3 ans de recherche. 3 ans de recherche avec une exigence, le meilleur pour les plus fragiles, pour les plus faibles. Pas d'objectif de prix, pas de brief de prix, pas de brief marché. Innover, apporter le mieux et réconcilier sécurité et performance. La difficulté en cosmétique, c'est que lorsqu'on veut de la sécurité, c'est l'exemple des cosmétiques pour enfants, ouais. On finit avec de l'eau et de l'huile. C'est pas dangereux.
Oui. A priori.
C'est pas dangereux. Un bon marketing et un très bon prix de vente. Trouver des actifs performants, les introduire à des pourcentages d'efficacité, concilier la sécurité et un objectif mondial, donc des réglementations mondiales, eh bien, ça nous a conduit à 3 ans de recherche, à des heures de réunion qui se terminaient par non, ça va pas.
Ah ouais.
Et à une gamme exceptionnelle de par sa conception et sa dimension sociétale, c'est-à-dire que s'adresser aux femmes du monde entier, aux plus fragiles, et leur apporter le meilleur. Ça, c'est une vraie dimension sociétale, aller au-delà des lois, faire mieux et être plus exigeant.
Et du coup, vous avez écarté certains ingrédients, voilà.
Alors, en formulant pour les femmes touchées par le cancer du sein, souvent on me demande pourquoi le sein. Les produits Osalis sont destinés à toutes les femmes et à tous les patients touchés par le cancer pendant et après. En revanche, en ciblant ce type de cancer, on était au plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le cancer du sein, les cancers féminins, ovaires, seins, sont des cancers hormonodépendants dans 80% des cas.
D'accord.
Ce qui sous-entend que les œstrogènes vont être un facteur de risque. Ça fait d'ailleurs partie intégrante du traitement de ces cancers, c'est-à-dire qu'on va non seulement mettre les hormones au repos, on va les supprimer.
Ouais.
Et on va empêcher qu'elles aillent se fixer sur les récepteurs que l'on retrouve dans la glande mammaire, dans les ovaires, etc.
Okay.
Et donc, lorsque vous formulez lorsque j'ai souhaité et construit le Osalis, je l'ai voulu absolument sans ingrédients se comportant comme des œstrogènes. Alors, dans le grand public, on parle de perturbateurs endocriniens.
Oui, tout à fait.
Ceux-là sont connus, reconnus ou présupposés. Mais en fait, moi, j'ai souhaité aller au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'ingrédients qui sont excellents en cosmétique, dans les produits naturels notamment, on en retrouve beaucoup, et qui vont parfaitement compenser l'absence, la baisse d'œstrogène chez la femme. Les traitements contre la ménopause naturelle, par exemple la sauge,
ouais.
C'est un œstrogène like. Eh bien, dans les ingrédients cosmétiques, on va retrouver la même chose, des phytoœstrogènes qui, très concrètement, vont avoir une belle action sur la peau.
D'accord,
dans les produits Osalis, l'objectif, c'était impérativement de les supprimer et de n'introduire aucune molécule œstrogène ou progestérone like.
Like, ouais, d'accord. Okay.
Mais de même, on a été au-delà avec les filtres UV. On trouve trop souvent, à mon sens, des filtres UV dans les formules cosmétiques. Pour moi, le filtre UV, c'est utile quand on va au soleil.
Ouais.
Si on ne va pas au soleil, on n'a pas besoin de filtre UV dans sa crème.
Même s'il fait très beau en ville.
Même s'il fait magnifiquement beau, comme on le voit aujourd'hui à Paris, C'est...
Voilà. Ouais, non, mais oui.
Le
oui.
filtre UV, on l'utilise à bon escient lorsque l'on veut se protéger du soleil et à bonne dose. En mettre une dose partout en indice 25, c'est la balance bénéfice-risque, elle est défavorable. Les phtalates également sont des ingrédients que l'on a souhaité supprimer.
Ouais.
Et les phtalates, on les retrouve... Alors, c'est facile de les supprimer dans les formules, mais on les retrouve beaucoup dans les packaging.
Ouais, ouais, tout à fait. Le plastique.
Et le plastique. Et donc, aux Alice, on a souhaité, et nous avons travaillé sur la migration contenant-contenu.
D'accord.
Donc, c'est une recherche très poussée qui... bien évidemment, a pour conséquence de créer des produits à des coûts de revient élevés.
Forcément.
Mais moi, c'est ce que j'appelle l'innovation pour les plus fragiles, le meilleur.
Et vous avez pensé aux soins cosmétiques, mais également aux produits d'hygiène. Vous en parliez au début de l'entretien, comme le dentifrice, le bain de bouche, le déo aussi.
Mais oui, parce que dans l'esprit du public, cosmétique égale soin de peau. Mais un produit cosmétique, c'est un parfum. Un produit cosmétique, c'est un produit d'hygiène. Et un dentifrice, c'est un produit cosmétique. Et l'hygiène est essentielle. C'est ce qu'on apprend aux enfants, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? On leur apprend la première chose qu'on fait, c'est à se laver et à se laver les dents. Donc l'hygiène, c'est un critère de santé physique et de santé morale. Et lorsque vous êtes malade, j'aime bien comparer avec... je dis avoir un cancer, c'est avoir une grippe et une gastro-entérite en même temps. Mais pas 8 jours. 6 mois. 1 an. C'est long.
C'est long.
Et lorsque vous avez une grippe ou une gastro-entérite, eh bien finalement, qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui est le signe que vous allez mieux ? C'est quand enfin, vous sortez de votre lit et vous allez prendre votre douche. Vous sortez, vous sentez bon de votre douche et vous dites « Ah !» Ça y est, ça va peut-être aller mieux.
Ouais.
C'est en train de passer. Ouais. Eh bien, c'est exactement ça que l'on vit lorsque l'on est en traitement anticancéreux. Cette difficulté à aller dans la salle de bain, à prendre soin de soi, les choses les plus simples, prendre une douche, se laver les dents, sont douloureux. Et cette salle de bain, elle a un double impact. Elle est à la fois source de douleur physique et de douleur morale. Et donc ces soins d'hygiène, c'est par ça qu'on a commencé, je les voulais absolument. Et le premier produit que l'on a créé, c'est le dentifrice.
Ouais. Ouais.
Parce que se laver les dents, ce n'est pas un geste agréable pour chacun d'entre nous.
Non, non, bien sûr, mais,
lorsqu'on
faut le faire.
Il faut le faire, voilà. Mais lorsqu'on est en chimio, se laver les dents, c'est un enfer. Voilà.
Et tellement puis après, la bouche, tellement la muqueuse est sensible.
Tellement la bouche fait mal, la laine est épouvantable. Et donc, ces soins d'hygiène pour moi étaient essentiels et nous avons commencé par l'hygiène, puis nous sommes remontés sur l'après-hygiène et le soin de la peau.
D'accord. Je crois qu'il y a même il y a un parfum aussi.
Oui.
Ouais.
Oui. Oui, alors c'est une marque disruptive qui bouge les codes. On fait un bain de bouche dans lequel on met de l'acide hyaluronique. Moi, je ne le mets pas dans les crèmes. D'abord parce que je sais que ça ne marche pas. L'acide hyaluronique ne fonctionne que sur une peau lésée, même à bas poids moléculaire, pas se leurrer. Donc nous, l'acide hyaluronique, on le met dans le bain de bouche parce que les muqueuses sont lésées. Et le parfum, bah, là aussi, c'est disruptif. C'est comment ça, un parfum pour,
oui.
Pour femmes touchées par le cancer. Mais oui, parce que les chimios sont photosensibilisantes. La radiothérapie, bien sûr, le parfum est interdit. En France, on a des marques d'exception de parfums. Mais il faut voir les milliers de parfums qui existent dans le monde et qui sont dans le commerce. Ils ne sont pas tous testés pour leurs caractéristiques photosensibilisantes. Donc, pas de spray, donc pas de parfum. Et ces femmes, en traitement, finissent par ne plus rien utiliser.
D'accord.
Pas de déodorant, pas de parfum. Donc, non contente de ne plus avoir de sein, eh bien, en plus, vous sentez mauvais. Mais oui, qu'à cela ne tienne.
Ouais,
tout va bien. Non. Non, on peut sentir bon. On peut aussi avoir des produits d'hygiène qui sentent bon. On n'est pas obligé de sentir la base et l'huile et le tournesol ou l'avoine, qui, à mon sens, sentent très mauvais. Voilà, j'aime ça.
En brut, ouais, c'est pas forcément sympa.
Voilà. On peut, l'olfaction, ça fait partie des cinq sens et on a besoin de ces sens pour la qualité de la vie. Lorsque vous êtes en traitement, vous perdez le goût, vous perdez l'odorat. L'odorat est déformé. Tout est affecté. Ce que vous voyez est laid lorsque vous regardez. Et donc, renouer avec des émotions positives, c'est le début de la qualité de vie. Et oui, on a créé un parfum avec une pompe unique, qui est une pompe qui délivre une goutte. On renoue presque avec un geste ancestral du parfum et qui permet d'apposer une note de parfum à l'endroit qu'il vous plaît, en fait, sans danger.
Ouais, sans danger. Et quelle sera la prochaine étape pour Rosalys ?
Alors, dans votre question initiale, il y avait le make-up.
Oui, tout à fait.
Oui, et j'ai bien aimé cette question parce que j'avais envie d'y répondre, justement. Donc, pas de make-up pour Rosalys. Non, alors, pourquoi ? Deux raisons. Je pense qu'en France, on a les plus beaux fabricants de maquillage, les plus belles marques de maquillage au monde, avec une qualité exceptionnelle et esthétique et technique. Donc, impossible de faire mieux que les plus grands, à mon sens. Et sur le plan ingrédients, très compliqué de faire du maquillage avec la charte aux Alice. Donc, pas de maquillage, c'est vraiment pas l'objectif de la marque. En revanche, la deuxième étape de la marque, c'est innover et aller répondre à quelque chose qui aujourd'hui n'est pas traité, c'est les soins en institut.
Ah oui.
Donc, la deuxième étape, c'est le lancement depuis un mois d'une gamme professionnelle associée à 6 soins cabine,
d'accord,
spécifiquement pensée pour les femmes après la maladie en ville, lorsqu'elles vont pouvoir retrouver ou trouver, parce que parfois elles n'auront jamais été chez une esthéticienne.
Exact.
Et renouer avec le toucher, renouer avec leur corps en douceur, sans se faire mal, sans machine, uniquement avec des mains. Et puis également en apportant une gamme professionnelle pensée pour les praticiennes.
Oui. Bien sûr.
Et pour leur sécurité, en étant la marque qui évalue, garantit la sécurité des praticiennes, là aussi, durant les soins. Parce que les esthéticiennes, elles ont les mains dans les crèmes.
Ouais, elles sont exposées. Hein.
Très exposées, 8 heures par jour et pendant 40 ans. Donc, c'était important pour nous. Et répondre aussi à un besoin des socio-esthéticiennes, puisque la socio-esthétique se développe. Et la prise en charge durant la maladie par ce qu'on appelle les soins de support et des soins du corps par les socio-esthéticiennes est extrêmement importante. Et la sensation de bien-être que procure un massage, parfois c'est plus fort qu'un antalgique. Donc voilà, l'avenir d'Osalys, c'est depuis un mois le complément avec,
d'accord,
l'Institut et la réponse avec des soins du corps, du visage, spécifiquement pensés pour les femmes touchées par le cancer et pour les praticiennes.
Et ce sont des instituts aux Alice ou ce sont des protocoles qui sont faits dans des instituts qui existent déjà ?
Aux Alice, marque sociétale.
Ouais.
Donc, toutes les esthéticiennes engagées qui ont envie de répondre à un besoin de leur clientèle ou d'une nouvelle clientèle pourront utiliser et commercialiser la gamme aux Alice. C'est pas une franchise, c'est pas
non. D'accord,
okay. C'est des soins abordables. Là aussi, on l'a pensé en soins abordables, un soin du visage à 80-100 euros lorsque vous êtes en arrêt de travail ou que vous avez perdu votre travail, que vous ne retrouverez pas de travail parce que vous êtes au chômage et que 70% des chômeurs ne retrouvent pas de travail après un cancer. Eh bien, là aussi, ce sont des soins qui ont été pensés avec des prix modiques, abordables. Donc, une nouvelle offre en institut de ville.
D'accord. Et Osalys, c'est une histoire de famille aussi. C'est une histoire avec vos filles.
Ozalie, c'est une histoire de femme. Ozalie, c'est né d'une épreuve et est devenu un formidable projet d'entreprise auquel sont associés les 250 salariés du groupe. Et dans ces femmes, il y a deux femmes très importantes pour moi, les plus importantes. Ma raison de vivre, ce sont mes filles, effectivement. Et elles sont maintenant à mes côtés pour... je transmets et je les forme. C'était à la fois un enjeu professionnel, parce que j'ai failli perdre mon usine, mon groupe, lorsque j'ai été malade.
Ouais.
Et là aussi... je l'explique bien dans Combattante, on n'en parle pas, mais quand vous avez un cancer du sein, vous ne faites plus d'emprunt.
Oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire que vous ne vous empruntez pas pour acheter une machine à laver et une voiture, c'est fini. Et lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous n'empruntez plus.
Oui.
Vous n'êtes plus assurable.
C'est oui, fini. Donc ça veut dire que vous pouvez fermer l'entreprise et mettre des gens au chômage.
Vous condamnez à mort votre entreprise, puisque vous ne pouvez plus investir. Et donc, mes filles et ma fille Lisa, la première, qui nous a rejoint, m'a permis de sauver ma boîte.
D'accord.
En apportant du sang neuf, jeune, non malade.
Ouais, c'est ça. Ozalie, d'ailleurs, c'est inspiré de vos prénoms ou des prénoms des filles, je crois.
Ozalie, alors c'est un nom de marque qui a... je le souhaitais prononçable dans toutes les langues. C'était essentiel puisque d'emblée, j'ai voulu Ozalie pour les femmes du monde entier. Et d'emblée, Ozalie a été traduite en 28 langues.
D'accord.
Et en fait, c'est né de Lisa et Isa Ose. Bon, c'est... Vous savez, quand on cherche un nom.
Oui.
Et voilà. Et un peu comme au Scrabble,
ouais.
Eh bien, Ozalie est née.
D'accord. Et en fait, vous ne pourrez plus vraiment tourner la page avec cette marque, alors que j'ai l'impression que souvent les femmes qui sont passées par cette épreuve, c'est ce qu'elles ont envie de faire, quoi, c'est de mettre tout ça derrière elles. Mais vous, finalement, en créant Ozalie, vous restez quand même liée.
C'est vrai, c'est terriblement vrai. C'est une façon de tourner la page à ma manière. Alors, on est nombreuses quand même à la tourner de cette façon. On nous appelle les cancer survivors, engagés. Et nous sommes nombreuses à nous investir après, à avoir besoin de donner du sens. C'est vrai que ça a des effets collatéraux. Tous les jours, je parle, je communique avec des femmes en cours de maladie. Tous les jours, je vois partir des sœurs, des femmes engagées avec beaucoup de peine et de chagrin. C'est évident. Mais finalement, c'est la vie que j'ai choisie pour après. Mmh. Elle me convient bien.
Alors, quel conseil, s'il y en avait un que vous vouliez donner, quel conseil vous donneriez à des femmes qui sont actuellement touchées et qui sont en cours de traitement et,
Alors, c'est très difficile. Souvent, je dis que je ne veux pas donner de conseils parce que c'est redoutable de donner des conseils. Finalement, comme on me pose la question, je finis toujours par répondre.
Normal.
À vous, Chantal, j'ai envie de dire, pour moi, ce qui est important, c'est comprendre. Comprendre ce que l'on a, apprendre pour pouvoir faire ses choix et assumer la maladie et l'après-maladie. Je crois que le pire pour les femmes et pour les malades, c'est l'ignorance. Qui vous rend extrêmement fragile. Et donc, moi, mon conseil, c'est comprendre, apprendre de tout, apprendre de cette épreuve aussi, pour pouvoir avancer.
Quand vous dites comprendre, c'est poser des questions au médecin, c'est se renseigner.
Oui, ne rien lâcher. Ne rien lâcher dans la compréhension des choses et dans la négociation des choses. Parce que les traitements, il va falloir les supporter. Les assumer, supporter leurs effets secondaires. On parle pas assez de l'après-cancer.
Ouais.
Mais une femme qui sort des traitements aigus du cancer du sein ou du cancer de l'ovaire, derrière, c'est 5 ou 10 ans de traitement. 5 ou 10 ans d'un traitement et de traitements qui auront des effets secondaires qu'elle devra supporter sans rien dire. Et donc, c'est important de comprendre et d'apprendre pourquoi on prend ces traitements, pour pouvoir les assumer, de chercher toujours à des solutions pour minimiser les effets secondaires. Et finalement, avancer, se battre pour soi et en apprenant.
Et les gens qui sont autour?
Les aidants, c'est redoutable pour eux. On n'en parle pas beaucoup dans le groupe CCI Productions que je dirige. On a toute une politique, notamment pour les aidants. Être un aidant, je crois, c'est très difficile. Il n'a pas sa place. Il n'a qu'une place. D'ailleurs, il s'appelle aidant.
Oui.
C'est très bien trouvé.
Voilà.
Donc, l'objectif de l'aidant, c'est d'aider. Et pourtant, l'aidant souffre. Met sa vie entre parenthèses. C'est d'ailleurs ce qui provoque autant de ruptures. Alors, sentimentales et amicales.
Oui.
Hein, l'aidant, c'est le conjoint, ce sont les amis, c'est la famille. Et cette parenthèse de vie qu'impose le cancer pour tout l'entourage, elle est extrêmement difficile. Et les aidants ont besoin, après, ont une urgence de vie, de refermer la parenthèse. Donc, c'est compliqué pour eux aussi. Je crois que les aidants, il faut les aider.
Et
il faut, alors là, si j'ai un vrai conseil, que les aidants se fassent aider, parce que c'est extrêmement difficile et il faut savoir exprimer sa douleur en tant qu'aidant pour pouvoir peut-être mieux assumer l'après.
Donc, aller voir un psy ou, enfin, en tout cas, ouais.
Tourner vers ceux qui peuvent vous soutenir. Il y a de formidables associations, des forums de discussion. Il existe beaucoup de choses en France pour des maisons d'accueil et des psychologues. Ne pas hésiter à solliciter de l'aide lorsque l'on est un aidant, parce que je crois qu'il ne faut pas minimiser l'impact que la maladie d'un être aimé a sur soi.
Bien sûr.
Et c'est mieux de se faire aider avant que d'aller finalement que de souffrir soi-même ou parfois d'aller jusqu'à la rupture.
Ouais, bien sûr. Merci Isabelle.
Merci Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les notes de cet entretien sur le blog beautytoaster.fr. Si ça vous a plu, et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis. Surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Enfin, chaque nouvel épisode est annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Alors suivez-nous. En attendant, passez une excellente semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.